top, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV. C'est vous qui représentez le système.
Annoncé de but en blanc la semaine dernière, fermeture brutale du site BuzzFeed France. 14 employés, 14 licenciements. Parlons-nous franchement, les journalistes sont toujours prompts à se défendre les uns les autres. Les plans sociaux, qui touchent notre profession, bénéficient ainsi d'une couverture, donc d'une mobilisation très disproportionnée au regard de ce que vous vivez, vous, parfois frappé par les restructurations monstres entamées chez Carrefour, chez Air France ou chez Ford, ou même par les délocalisations. Ça fait beaucoup, beaucoup plus de monde sur le carreau que les 14 types de BuzzFeed. On en a bien conscience. À ceci près qu'un média n'est pas une entreprise comme une autre. En le rayant de la carte, ce ne sont pas que des emplois, mais des scoops, des révélations, des enquêtes en cascade et un regard militant sur notre société qui disparaissent. Un média, oui, c'est un regard. Un média, c'est un contre-pouvoir.
L'instant M. Sonia de Villers. Sur France Inter.
Bonjour à tous, BuzzFeed France.
Bonjour.
Ils sont tous là. À ma droite, Cécile Dédain, DS Dain, rédactrice en chef et toute jeune maman, parce que les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, si j'ai bien compris. Bonjour à vous. Est-ce que vous voulez présenter toute l'équipe par ordre d'apparition? On va peut-être commencer par Stéphane Jourdain, qui est rédacteur en chef adjoint. Bonjour.
Bonjour.
Et ensuite?
Ensuite, on a Asma Mad, qui est journaliste news.
Oui.
Fanny Lesbros, qui est journaliste vidéo au Pôle News.
Bonjour.
David Perrotin, qui est journaliste news également, particulièrement sur les discriminations et les violences policières.
Mmh.
Ensuite, de l'autre côté de la table, on a Pierre Dalméda, qui est journaliste au pôle divertissement.
Bonjour.
Ouais, bonjour à vous.
Jennifer Padjemi, qui est responsable lifestyle et qui écrit aussi beaucoup sur le féminisme et la pop culture. Derrière elle, on a Paul Aveline, qui est journaliste politique au pôle news.
Bonjour.
Et à côté de moi, on a Jules Darmanin, qui est journaliste news, pas mal sur le fact-checking et l'enquête sur les réseaux sociaux.
Bonjour. Voilà, bonjour à vous tous. La nouvelle est tombée la semaine dernière, je l'ai dit, c'est la première fois que vous vous exprimez. Depuis, vous êtes venu accompagné de votre avocat, Maître Thomas Hollande. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous n'avez jamais défendu BuzzFeed, ils n'étaient pas jusqu'à présent vos clients.
Tout à fait, voilà. Voilà. Depuis l'annonce de la fermeture, j'ai été saisi de la défense des intérêts des salariés de BuzzFeed.
Voilà, vous êtes avocat spécialiste en droit social. J'imagine que BuzzFeed a déjà eu affaire à des avocats pour quelques procès en diffamation ou en tout cas quelques attaques. Le couperet doit tomber le 20 juillet. David Perrotin, Stéphane Jourdain, un mot sur ce qui vous est tombé dessus la semaine dernière, parce que pour le coup, vous ne vous y attendiez pas du tout.
Non, il n'y avait pas de signe annonciateur, donc la nouvelle était difficile. On n'a pas eu de petites choses ces derniers mois qui nous laissaient penser que ça pouvait arriver. Donc ça a été vécu évidemment extrêmement brutalement. Et c'est dur quand c'est inattendu et que ça tombe et qu'il n'y a pas de procédure d'appel.
Mmh, David Perrotin.
Bah oui, c'est ça, c'est que ça a été très brutal, qu'on n'avait pas du tout idée que les bureaux puissent fermer. Et il y a aussi l'aspect, enfin c'est assez expéditif, la durée dans un mois pratiquement. C'est sûr que ça rajoute encore plus de violence à tout ça.
Évidemment, on va en reparler avec votre avocat. Un mot avec vous, Cécile Desdain, pour nos auditeurs, ceux qui ne connaissent pas encore BuzzFeed, créé aux États-Unis en 2006 par l'un des cofondateur du Huffington Post. BuzzFeed qui a commencé en publiant tout un tas de listes extrêmement farfelues et qui avait un succès fou sur les réseaux sociaux. Ça m'a valu un mea culpa, moi, à l'antenne d'Inter, puisqu'au début, je vous ai vraiment pris pour des guignols et que 2 ans après, je vous ai réinvité en disant oh, « Qu'est-ce qu'ils ont sorti comme info, ces gens-là » Ces guignols. Aujourd'hui, BuzzFeed existe dans 11 pays, c'est cela ?
Oui, au moins.
Au moins, et en 6 langues, Brésil, Mexique, France, Japon, Grande-Bretagne, Australie, Allemagne, Espagne et Inde, voilà. Je voudrais qu'on commence tout de suite par raconter ces affaires que vous avez sorties. On va les balayer, il y en a énormément, notamment par exemple les comptes Twitter et Facebook de 573 candidats au FN passés au peigne fin par la rédaction de BuzzFeed. On écoute Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, au micro de Jean-Michel Apathy.
Anne-Laure Malher, alors elle, peut-être vous ne la connaissez pas, qui candidate dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine. Sur Facebook, elle fait le parallèle entre Emmanuel Macron et Hitler. Elle partage des articles d'Emmanuel Ratier.
Non mais tout dépend. On ne peut pas comme ça sortir de leur contexte tel ou tel propos.
Il n'empêche que l'enquête de BuzzFeed a établi que
non, mais BuzzFeed, c'est
plusieurs de vos candidats.
Excusez-moi, mais BuzzFeed, c'est pas un juge d'instruction.
Ah non, non.
Voilà, c'est l'appréciation qu'un média fait de nos candidats. Mais moi, je leur dis que nos candidats, ils respectent la loi, ils disent un certain nombre de vérités que les Français veulent entendre.
Voilà, BuzzFeed ne s'est pas fait que des copains. Jules Darmanin, un mot sur ce travail collectif ?
Oui, c'est un travail collectif qui montre que les réseaux sociaux sont pas juste des petits sites pour faire des trucs marrants, même si ça en fait partie. Mais c'est aussi des terrains d'enquête et des terrains de travail. C'est ça qui a été très important pour la partie news de BuzzFeed, c'est de considérer les réseaux sociaux comme quelque chose de sérieux et quelque chose sur lequel il faut enquêter.
C'est ça, d'autant plus que vous avez montré comment, par exemple, le Front National s'appuie sur des trolls pour diffuser ses messages sur Twitter. C'est-à-dire, ça vous a permis d'exhumer énormément de choses. David Perrotin, il y a eu tout un travail sur l'extrême droite française réalisé par BuzzFeed depuis plusieurs années.
Ouais, en effet, il y a eu tout un travail parce que, déjà, je pense qu'il y avait un fonds qui permettait qu'on prenne ce temps-là. Mm-hmm. On avait quand même un luxe de pas avoir de dépêche AFP, de fil AFP. Mm-hmm. Il y avait aussi
de pas être un site généraliste, tout simplement, un site qui choisit ses causes, ses combats et ses axes.
Ouais, c'est ça.
Et ses enquêtes.
Et des chefs qui nous permettaient de, enfin, par exemple, moi, je me souviendrai toujours quand je partais sur une manif. Moi, on me disait, bah, si tu rentres sans rien, c'est pas grave. Mm-hmm. Ou alors de prendre le temps d'enquêter un mois sur un sujet, et c'est comme ça qu'on arrivait à faire des pas de côté, c'est comme ça qu'on arrivait à prendre du temps, et ça c'était vraiment le discours de la direction, de nous dire allez-y.
Stéphane Jourdain,
l'enquête du FN dont on vient de parler, oui. Par exemple, c'est 4 journalistes à plein temps, 4 ou 5 journalistes à plein temps pendant plus d'un mois. Mm-hmm. Donc c'est très lourd comme moyen, et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, à BuzzFeed on essaye justement d'éviter les sujets sur lesquels tout le monde se met,
oui,
pour essayer de faire un pas de côté et trouver un angle à nous, ce qui n'est pas facile. C'est une ambition difficile à tenir, mais c'est vraiment une ambition qu'on avait chevillée au corps et qu'on a essayé de tenir jusqu'au bout.
Donc ça a donné les embauches des conjoints par des élus frontistes au Parlement européen, ça a donné des liens entre les identitaires et les frontistes, notamment à Lyon, ça a donné comment le Front National a fabriqué de toutes pièces un scandale autour de Delphine Ernotte, la patronne de France Télévisions. Mais je reprends ce que disait Jules Darmanin tout à l'heure, c'est-à-dire les réseaux sociaux offrent un terrain d'observation et un terrain de chasse. Ça vous a permis de découvrir par exemple les tweets cachés de Laurent Dutch, historien à succès. Quelqu'un veut en dire un mot, Paul Aveline?
C'était une de mes premières enquêtes à BuzzFeed, ouais, à vrai dire, et j'étais très étonné qu'on m'ait laissé le temps de faire ça, parce que c'est quand même un travail très long, et plonger dans les comptes Twitter de Laurent Dutch, c'est compliqué.
Ah bah ça a été plus qu'instructif, oui.
Ça a été instructif, mais ça montre encore une fois que quand on prend le temps d'enquêter sur les réseaux sociaux, on trouve des choses, et on trouve des choses sur des gens aussi respectables que Laurent Dutch à première vue, et qui pourtant...
Ça permet aussi de découvrir la page Facebook de Jean-Pierre Pernaut, je crois que c'était BuzzFeed qui avait sorti ça, quelqu'un veut dire un petit mot?
Non, mais ça,
David Perrotin.
Il y avait aussi, en fait, je pense qu'il y avait un regard propre à BuzzFeed, c'est-à-dire à partir du moment où on considère les réseaux sociaux comme quelque chose de sérieux, mm-hmm, et un terrain d'enquête, mm-hmm, bah après on trouve c'est une mine d'or, en fait, c'est-à-dire que Jean-Pierre Pernaut, comme Laurent Dutch, c'est quelqu'un de respectable, etc. Et puis là on trouve tout un monde un peu proche de l'extrême droite, ou en tout cas une vision proche de l'extrême droite, et du coup on le met en page et on le publie, et ça étonne tout le monde parce que les gens ne sont peut-être pas, ont pas pensé à s'attarder sur ces réseaux.
Je vous fais entendre aussi un grand moment à l'Assemblée nationale. Isabelle Attard interpelle Jean-Michel Bellay.
Vous avez chassé votre collaboratrice de chez vous en pleine nuit, entièrement dévêtue et pieds nus. Ces faits ont été rapportés le 10 mars 2016 par les journalistes Marie Kirchen et David Perrotin. Nous avons un groupe écologique.
Au sujet de l'article 8 bis, s'il vous plaît.
Coupez le micro, je parlerai sans micro, c'est pas grave du tout. Ces journalistes, Marie Kirchen et David Perrotin, vous ont contacté avant et après la parution. Vous étiez patron de presse, vous connaissez le délai des 3 mois pour les attaquer en diffamation. Vous avez choisi le silence, aucun innocent n'aurait choisi de se taire.
Voilà, comme je disais, vous ne vous êtes pas fait que des amis, et vous avez été, Jennifer Padalani, vous les...
Pas Jamie,
excusez-moi.
Alors c'est vrai que en dehors du news, il y a toute la partie
publique
qui est la partie divertissement, vraiment pour que ce soit pour rire, pour faire des quiz, pour parler de pop culture. Mais il y a aussi toute la partie qui est entre les deux, mm-hmm, qui est vraiment ancrée dans notre société, qui parle de la génération dont on fait partie, enfin principalement en tout cas la majorité de la rédaction, qui est très jeune, qui est parlé de féminisme, d'intersectionnalité, de personnes minorisées, racisées et de de personnes LGBT. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment fait de la bonne manière et qui nous tenait à cœur.
Et pour le coup, vous avez vraiment occupé, pour le coup, un créneau. Vous vous êtes vraiment fait identifier là-dessus. Vous avez publié tout un tas de papiers. Ça va du calvaire des femmes trans en prison, qui était une enquête. Beaucoup de travail sur l'afroféminisme, mais même sur des sujets légers.
Sur des sujets légers, et c'est aussi beaucoup de déconstruction de...
C'est ça, d'a priori, d'idées reçues, etc.
Essayer de décomplexer en fait les femmes et les personnes qui sont quotidiennement minorisées.
Voilà, c'est aussi des recueils de témoignages sur les violences gynécologiques, parce que l'idée étant de briser les tabous. Cécile Desdin, ça c'est une ligne américaine que vous avez importée en France ?
Disons qu'en tout cas, c'est la ligne de BuzzFeed aux États-Unis depuis le début.
C'est ça.
Et quand on a monté en puissance en France, c'était très important pour moi et pour nous tous d'avoir cette ligne-là ici, où c'était un peu plus aujourd'hui, mais en tout cas, il y a 4-5 ans, ça n'était vraiment pas beaucoup traité par les médias. Et c'était important pour nous de traiter ces sujets sous tous les angles. Donc du plus sérieux au plus léger, on voulait les traiter quotidiennement et on voulait toucher le plus de personnes possible. Et donc pour ça, ça passe aussi par, je pense à un article que Jennifer a fait il n'y a pas longtemps sur si on parlait aux hommes de la même manière qu'on parle aux femmes.
Ouais.
Et c'est plein de petites phrases qui vous stoppe en fait. Vous les lisez, vous vous arrêtez 2 minutes et vous dites « Ah oui, c'est vrai que jamais on dirait ça et pourquoi je fais ça en fait ?»
Voilà, et ça donne la création de ce que vous appelez, vous, une verticale, c'est-à-dire un fil d'informations thématisées que vous avez appelé meuf. Vous avez aussi amené votre pierre à l'édifice dans le mouvement MeToo. Vous avez révélé des plaintes en cours chez des confrères médiatiques. Éric Monnier, ex numéro 2 de l'info de France 2, visé par une plainte. Paul Aveline, c'est BuzzFeed qui l'a sorti.
Oui, absolument, ouais. On a sorti cette enquête sur Éric Monnier et une autre, notamment sur Frédéric Aziza.
De la chaîne LCP. Ouais. Je rappelle que la première plainte a été classée sans suite et que Frédéric Aziza a été ensuite réintégré sur son antenne.
Absolument.
Mais ça a fait beaucoup de bruit.
On espère. L'intérêt quand on sort ce genre d'enquête, c'est que ça touche le plus de monde possible, parce qu'on estime que ça mérite d'être lu et que ça mérite d'être entendu. Ensuite, la suite judiciaire nous concerne peu, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre travail, c'est à la justice de décider, ou dans le cas de Frédéric Aziza, à sa hiérarchie. Mais ça nous paraissait important pour BuzzFeed de se saisir de ces sujets-là, parce qu'un tel mouvement, c'est rare, c'était jamais arrivé. Et il fallait qu'on soit présent aussi dessus. Ouais.
Alors avant de passer la parole à votre avocat, je voudrais qu'on dise aussi un mot sur la question des violences policières, qui est un sujet régulièrement traité chez BuzzFeed. Jules Darmanin, Asma Ahmad, est-ce que l'un d'entre vous veut en parler ?
Oui, on a effectivement beaucoup travaillé sur les violences policières, et notamment avec les papiers de David. Et en 2016, avec la loi travail, il y a eu beaucoup de choses à faire, notamment chez les lycéens. Et c'est vrai que c'est quelque chose dont on est assez fiers, parce que nous, on estime que c'est... Alors pas sous-traité, mais en tout cas pas comme on l'aimerait, et on a réussi nous à s'engouffrer là-dedans, et on a réussi aujourd'hui à montrer que BuzzFeed, en tout cas sur ces thématiques-là, était très très présent et avait fait un travail assez remarquable. Mm-hmm.
Maître Thomas Hollande, donc vous allez défendre ces 14 salariés et la survie probable, putative, espérée de ce titre, où le combat est perdu d'avance ?
Non, le combat n'est pas perdu d'avance, heureusement. Ce qu'on a déjà demandé par la voix de la représentante du personnel des salariés de BuzzFeed, c'est des informations pour comprendre les véritables raisons de cette fermeture. Comme ça a été dit tout à l'heure, ça a été une annonce très brutale. Mm-hmm. Les délais légaux sont très courts, mais pour pouvoir se déclencher, il suppose que l'ensemble des informations nécessaires pour comprendre les raisons d'une fermeture aient été communiquées aux représentants du personnel, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. Et donc, on demande la suspension de cette procédure de licenciement tant que les informations n'ont pas été communiquées à la représentante du personnel.
Je veux dire un mot avec Cécile Desdin quand même, qu'on comprenne le modèle économique de BuzzFeed, sachant que votre propriétaire américain est en difficulté financière, qu'il y a déjà eu 20 personnes licenciées en Grande-Bretagne, une centaine de personnes licenciées aux États-Unis, donc presque 10% de l'effectif. Donc ça n'est pas une surprise. En fait, BuzzFeed a eu du mal à trouver son modèle économique, sa rentabilité.
Le modèle économique de BuzzFeed, à la base, il était uniquement fondé sur les posts et les vidéos sponsorisées,
oui.
C'est-à-dire du brand content, en gros, mm-hmm. du native advertising. Et il a dû se démultiplier et se diversifier dans les années récentes, parce qu'avec toute la concurrence qu'il y avait. Et ça a été le cas notamment aux États-Unis, où maintenant il y a des shows avec Twitter ou avec d'autres, avec Netflix plus récemment, et avec l'arrivée dans tous les pays de BuzzFeed du display, c'est-à-dire des bannières publicitaires,
des bannières publicitaires.
Ce qui n'existait pas au début.
Alors on a beaucoup dit, et vous êtes sans doute tous plus spécialistes que nous, on a beaucoup dit que le changement de l'algorithme de Facebook avait impacté des sites comme le vôtre, qui sont énormément dépendants des réseaux sociaux, et notamment de Facebook, énormément, dont les contenus sont énormément partagés sur les murs Facebook les uns des autres. Peut-être Jules Darmanin, vous qui êtes un bon spécialiste, comment vous analysez aujourd'hui cette dépendance à un géant américain, à savoir Facebook ?
Je pense pas qu'on soit si dépendant que ça, parce qu'il y a plusieurs façons d'accéder en fait aux articles de BuzzFeed. Il y a des gens qui ont l'application BuzzFeed. Il y a également d'autres réseaux sociaux. On remarque qu'il y a des personnes qui n'utilisent plus forcément Facebook pour accéder à leurs informations. Maintenant, le changement d'algorithme, ça a fait beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'expliquer que ça vient de là, les
peut-être
difficultés
que c'est un trompe-l'œil, hein.
économiques. Je pense que c'est un trompe-l'œil. Je pense que déjà les baisses de reach dans les médias, on les a vues quelques mois avant même que le changement d'algorithme soit annoncé dans d'autres médias. Donc en fait, c'est un peu Facebook, je dirais que a plus un pouvoir d'influenceurs en disant voilà, on change l'algorithme, donc ça fait peur à tout le monde, que de changements concrets des visites.
Les vidéos, par exemple, qui étaient que hébergées sur Facebook, elles n'ont fait, enfin, au niveau des audiences, ça a fait que croître. Donc, en tout cas, pour les vidéos, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, quoi.
Maître Hollande, c'est donc un média qui était en croissance, un média qui continuait de recruter jusqu'à il y a encore quelques mois, dont le trafic n'a cessé d'augmenter. Donc, pour vous, c'est une fermeture injustifiée en réalité ?
Injustifié et surtout à ce stade incompréhensible, puisque effectivement il y a cette raison du changement d'algorithme Facebook qui est invoquée, mais qui a eu des conséquences beaucoup plus importantes dans les autres pays que sur l'édition française du site, que jusqu'à présent le modèle économique prôné par la direction du groupe BuzzFeed, c'était un modèle économique qui n'avait pas forcément comme objectif une rentabilité économique et financière immédiate. Il y a eu, et pourtant les salariés de BuzzFeed s'en sont inquiétés, un refus de la direction de mettre en place une régie publicitaire en France. Donc aujourd'hui, la direction de BuzzFeed ne peut pas invoquer l'absence de recettes publicitaires en France pour justifier cette fermeture.
Sachant qu'il n'y avait pas donc de régie publicitaire
à plusieurs reprises,
à BuzzFeed,
reprises, les salariés ont demandé, s'en sont inquiétés, ont demandé la mise en place d'une régie publicitaire. Ça a été refusé par la direction, qui a invoqué le fait que ce n'était pas le système économique voulu par le groupe.
Donc aujourd'hui, vous entrez en conversation, on va dire, avec l'actionnaire américain. Comment ça se passe ?
Alors pour l'instant, voilà, il y a la représentante du personnel qui a aujourd'hui une interlocutrice qui est la responsable RH, mais qui n'est pas la vraie décisionnaire. Donc il y a eu une demande officielle qui a été faite de pouvoir avoir le bon interlocuteur, c'est-à-dire celui qui a le pouvoir de décision. Ouais. Sachant que les représentants légaux de BuzzFeed en France, ce sont les représentants légaux du groupe BuzzFeed. Donc on demande effectivement que ce soit eux qui mettent en œuvre cette procédure de licenciement et qui répondent aux questions, qui viennent s'expliquer auprès de la représentante du personnel et des salariés.
Vous avez jusqu'au 20 juillet, c'est très très court. Hein.
C'est pour ça que si jamais on n'a pas une réponse satisfaisante là, dans les heures qui viennent, il y aura une procédure judiciaire qui sera engagée pour faire suspendre cette procédure de licenciement.
Très bien. Merci beaucoup à tous. Merci d'être venus dans l'Instant M aussi nombreux. C'est la fin de l'émission. Ali Rebeillé est rentré dans ce studio. Il n'en revient pas. Donc voilà, ça va être l'heure de Grand Bien vous fasse.
Oui, êtes-vous flexitarienne ?
Moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais à BuzzFeed, tout le monde sait ce que ça veut dire.
C'est manger moins de viande et plus de végétaux et de céréales.
Est-ce que vous êtes flexitarien les uns les autres ?
Oui,
mais oui, évidemment, j'en étais sûr.
Ils sont modernes et dans l'air du temps. Dites-nous tout, au 01 45 24 7000.
Voilà, à tout à l'heure.